France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Compagnon du Tour de France, compagnon du devoir, la sublime geste d'une formation d'excellence. Voici une histoire qui, volontairement, affirme des origines lointaines, légendaires, dans des mondes gothiques quand l'Europe se couvre de cathédrales. Voici une histoire qui traverse les siècles avec le chef-d'œuvre, la belle ouvrage et une bonne dose de secrets, de mystères, mystères aujourd'hui exposés au regard des historiennes, des historiens.
Notre rituel est traditionnel.
Le cours de l'histoire.
C'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Alors bien sûr, ce mot chef-d'œuvre prend une importance extraordinaire quand on le prononce.
Et au début, c'est très dur au début. Il y a des jours où on aurait plutôt envie de retourner chez soi.
Le compagnonnage, c'est l'amour de la liberté, la conscience du travail bien fait et la fraternité.
Et voilà, la fraternité avant tout. Virginie Tostin, bonjour.
Bonjour Xavier Maudit.
Vous êtes responsable du musée du compagnonnage à Tours. Que peut-on voir dans ce musée ?
Beaucoup de choses. C'est un musée très très riche. Nous avons plus de 4000 objets qui représentent l'histoire, les rites et les métiers des compagnons.
Avec vous, pour essayer de saisir qui sont ces compagnons du Tour de France, François Rivière, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes docteur agrégé d'histoire. Vous avez travaillé sur le travail et les métiers en Normandie à la fin du Moyen-Âge. Regard médiéval sur cette histoire du compagnonnage. Et également Nicolas Adel, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur d'anthropologie à l'université Toulouse Jean Jaurès. Vous avez travaillé sur des hommes de devoir. Je sens que c'est très masculin. Nous parlons de compagnons, d'hommes de devoir, les compagnons du Tour de France du 18e au 20e siècle. Nous pouvons tout de suite le dire, et je l'évoquais dès l'ouverture de cette émission, Nicolas Adel, il y a des origines légendaires qui nous plongent loin dans le temps quand nous parlons de compagnons du devoir.
Les compagnons aiment à rappeler que leurs origines viennent tantôt, pour les plus lointaines, on va dire, de la construction du temple de Salomon. Et pour ceux qui sont moins, on va dire, ambitieux dans la requête des origines lointaines, on va dire, du temps des cathédrales.
Virginie Tostin, c'est ce qui apparaît dans le musée du compagnonnage à Tours, cette évocation d'origine lointaine.
Et oui, le légendaire compagnonique, il est central dans le compagnonnage encore aujourd'hui. On a trois pères fondateurs qui effectivement prennent place sur dans le contexte de la construction du temple de Salomon, comme le rappelle Nicolas, Maître Jacques, Salomon, le roi commanditaire, et le père Soubise, Maître Jacques étant le tailleur de pierre de ce chantier et Soubise le charpentier. Et donc là seraient nés effectivement les compagnons.
Et voici qu'arrive François Rivière, le médiéviste. François Rivière, ses compagnons du devoir existent-ils au Moyen-Âge tels qu'ils peuvent être présentés ou tels qu'ils se sont présentés par la suite ?
Alors, à ma connaissance, non, ils n'existent pas sous cette forme-là. Donc, c'est vrai que le médiéviste est là pour casser les mythes, malheureusement, même si on attribue souvent au Moyen-Âge cette puissance de création de mythes. En réalité, c'est peut-être une étude qui manquerait, c'est vraiment la manière dont cette légende, ce mythe s'est créé, sans doute plutôt au moment où les compagnons du devoir se structurent, je pense plutôt vers le 17e siècle, 18e siècle, où réellement là on a des sources très abondantes, et où finalement peut-être sur le modèle des corporations, corporations qui elles-mêmes apparaissent sous leur forme bien connue plutôt à cette période-là, remontent toujours à des formes médiévales, avec des documents qui peuvent être à ce moment-là, exhumés des archives et montrés par les organisations, mais qui souvent sont interprétés à la manière des 17e, 18e siècle, c'est-à-dire sans forcément le regard d'historien médiéviste actuel.
Quelle organisation des métiers existe alors ? Parce que je l'entends bien ici, un compagnon du devoir à l'intérieur de l'ensemble des métiers, c'est une voie particulière. Tout le monde n'est pas compagnon du devoir. Au Moyen-Âge, le mot compagnon existe, bien sûr.
Alors, le mot compagnon existe, il apparaît même en français au Moyen-Âge, puisque le français apparaît au Moyen-Âge, il apparaît aussi en latin, au début du Moyen-Âge, en bas latin déjà. Et donc, il apparaît pas d'abord dans le sens de travailleur, il apparaît dans le sens de frère, de la fraternité qui est toujours revendiquée par les compagnons, et dans le sens réellement lié à un ouvrier qui aurait terminé son apprentissage, qui se rapproche du sens du compagnon du devoir, là c'est à la toute fin du Moyen-Âge. Alors si on regarde les dictionnaires en ligne, ils nous disent 1455, mais on peut remonter un petit peu, on peut arriver au 14e siècle, quand même on a un certain nombre de mentions du terme compagnon dans un sens de quelqu'un qui a terminé son apprentissage, et après ça se diffuse, mais le terme le plus fréquent à l'époque, ça serait plutôt valet, voilà, voire sergent, mais sergent a été assez beaucoup plus ponctuel.
Et que reste-t-il, Virginie Tostin, d'ailleurs, de cette origine des compagnons? Compagnons, par étymologie, ce sont ceux qui partagent le pain.
Oui, Compagnis, effectivement, comme aimait à le rappeler Roger Lecôté, qui a fondé ce musée de Tours. Et la fraternité, elle est centrale aujourd'hui dans les valeurs des compagnons, puisqu'il y a, on va dire, des compagnonnages, en ce sens qu'il y a beaucoup de spécificités à chaque devoir, à chaque société, encore maintenant. Mais il y a des points communs très forts, comme le Tour de France, et les valeurs partagées, notamment la transmission, la fraternité, l'amour du travail bien fait.
Oui, parce que François Rivière nous disait que c'est au XVIIIe siècle, vraiment, que se constituent les compagnons sous la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Nicolas Hadel, justement, votre ouvrage « Des hommes de devoir » commence au XVIIIe siècle. Malgré tout, ils sont les héritiers de quelque chose, ces compagnons?
Oui, ils sont tout à fait les héritiers de quelque chose, et comme le rappelait François Rivière, notamment de l'organisation corporative. Mais ce dont ils sont l'héritier, en vérité, c'est d'une résistance à cette organisation corporative, à partir du moment où il était difficile pour plusieurs ouvriers et compagnons en particulier d'accéder au rang de maître dans les métiers. Un certain nombre de ces compagnons se sont organisés en quelque sorte pour résister, ordonner entre eux, pour faire société un peu à part du système corporatif, et progressivement, ce système-là a pris, au cours du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, une forme d'indépendance et une autonomie, avec des valeurs qui se sont trouvées être assez différentes de celles défendues par le système corporatif qui lui-même s'était effondré à la fin du XVIIIe siècle.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours un médiéviste avec nous pour donner un peu de profondeur. François Rivière, l'organisation des métiers, en tout cas pour la formation des métiers, c'est ce système que nous venons d'entendre ici avec un maître, des apprentis, c'est ça en fait qui a cours au Moyen-Âge.
Alors oui, le système le plus fréquent, ce sont des maîtres et des apprentis, mais il y a déjà des salariés, il y a toute une gamme de subordonnés, voilà, pour employer un terme plus contemporain, qui peuvent, alors les apprentis eux-mêmes peuvent gagner de l'argent dans certains cas, des maîtres peuvent s'engager comme salariés auprès d'autres maîtres, et alors c'est Bronisław Geremek, un grand historien polonais qui écrit en français aussi, qui a montré ça, que les métiers se ferment à partir du XIVe siècle. Alors on peut nuancer cette approche, mais il reprenait une approche qui date du XIXe siècle aussi. À ce moment-là, évidemment, il y a des gens qui, à la fin de leur apprentissage, ne passent pas directement maître. Et ils peuvent rester plus ou moins longtemps dans ce statut de valet gagnant de l'argent. Ils peuvent à ce moment-là aussi, du coup, chercher du travail ailleurs. Sans doute l'origine, peut-être, de ces migrations, de ces mouvements, de ce Tour de France. Donc on a trouvé les premières... 1402, c'est la première mention que j'ai trouvée d'un quelque chose qui ressemblerait à un Tour de France, mais c'est dans une organisation de métiers avec des maîtres. Alors moi je parle pas de système corporatif pour le Moyen Âge, parce que en termes de système, ça serait plutôt 17e, 18e siècle. Mais déjà les traces qui peuvent ressembler à des corporations, c'est là qu'on voit apparaître ces ouvriers vagabonds qui sont autorisés à rester dans une ville pendant un certain temps sans à travailler sans faire les formalités qui seraient exigées s'ils étaient locaux.
Oui, vous étiez intervenu, François Rivière, dans une émission du cours de l'histoire à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, Guilde des Compagnonnages. Compagnonnage, défendre son métier au Moyen-Âge. Dites-moi, au moment de réfléchir à cette itinérance, nous devons penser à l'idée même de chantier. Quand un chantier s'installe dans une ville pour construire par exemple une cathédrale, une fois que la cathédrale est construite, on n'a plus besoin des gens. C'est ça aussi l'idée d'itinérance?
Alors bien sûr, et d'ailleurs c'est ce qui fait que si on parle du bâtiment, c'est un secteur où il y a très peu d'organisations qui ressembleraient à des corporations au Moyen-Âge. C'est un secteur très peu organisé, sauf dans quelques cas, et ça apparaît assez tardivement. Mais il y a déjà ce qu'on appelle les loges, mais la loge c'est tout simplement l'endroit où se réunissent les travailleurs du chantier, où il y a des maîtres et des apprentis, ça c'est très bien attesté par toutes les comptabilités, et de toute manière les maîtres ont cette particularité dans le bâtiment qu'eux-mêmes sont salariés, c'est-à-dire ils n'ont pas leur atelier, leur indépendance. Mais les premières attestations du Tour de France que j'ai, c'est dans la draperie, c'est pas dans la construction. C'est la draperie de Caudebec, voilà, parce que je travaille sur la Normandie. Peut-être que si on poussait les recherches, on arriverait à remonter encore, à grignoter quelques années. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de, d'éléments qui sont dispersés dans différentes branches.
Virginie Tostin.
Oui, j'ajoute pour abonder à ce que dit François que nous, on a pour habitude de présenter aussi une date un peu clé qui est une ordonnance de 1419. Donc, on est effectivement à la fin du XVe siècle. Et encore une fois, c'est pas le bâtiment qui apparaît, c'est le secteur, la cordonnerie. Et là, on voit en fait dans cet extrait d'une ordonnance du roi la mention des compagnons. Et c'est très intéressant parce qu'on voit se dessiner vraiment les fonctions du compagnonnage. On parle d'ouvriers, de compagnons qui vont de ville en ville pour voir, alors pour travailler, ouvrir, travailler, voir, apprendre, connaître les uns des autres. Donc il y a vraiment cette idée de s'entraider, il y a cette idée de l'itinérance pour se former et aussi pour évidemment répondre aux besoins des chantiers. Et puis l'idée qui commence à se dessiner de la formation aussi, en tout cas d'un perfectionnement professionnel au fil des chantiers.
Avec toujours la volonté de trouver l'apprentissage, ça c'est une chose, mais la liberté et la fraternité.
Le compagnonnage, c'est l'amour de la liberté, la conscience du travail bien fait et la fraternité. Voilà les trois fondateurs du compagnonnage, Maître Jacques, le roi Salomon et le père Soubise, qui sont des personnages fabuleux, légendaires, dont on ne sait rien, à part Salomon qui est le constructeur du temple de Jérusalem. On ne sait pas qui est Maître Jacques, peut-être Saint Jacques le Majeur, peut-être Jacques de Molay, peut-être Jacques Moller, le soi-disant constructeur de la cathédrale d'Orléans, mais tout ça ce sont des fables. En réalité, je crois que c'est Saint Jacques le Majeur qui était le patron de tous les itinérants. Quant au père Soubise, on ne sait absolument pas qui il est. On raconte des histoires mais fabuleuses sur eux, ils ont des légendes extraordinaires qui ne s'accordent pas d'ailleurs toujours, mais les compagnons les aiment bien. Tout ça est légendaire, mais en somme, ça cristallise très bien la triple origine du compagnonnage, qui est à la fois monastique, Soubise, chevaleresque, Maître Jacques, qui est habillé en templier, et biblique, c'est-à-dire Salomon.
Nous étions en 1980 avec Roger Lecôté, qui était conservateur du musée du compagnonnage de Tours. Virginie Tostin, c'est le musée où vous êtes responsable, dont vous êtes responsable, ce musée du compagnonnage, où j'entends bien ici, et il y a notre démarche, celle que nous adoptons dans le cours de l'histoire, avec l'objet qui est la construction de la légende, et puis après, le document historique qui nous montre au plus près de la réalité ce qui a pu se passer. Donc j'entends qu'un 15e siècle, ici, est à retenir pour voir l'apparition de travailleurs itinérants.
Oui, on a effectivement tendance à penser, avec ces premières traces de l'itinérance, de peut-être des pratiques rituelles aussi. On a quelques images, par exemple, où on voit des compagnons, enfin en tout cas des travailleurs qui ont le front ceint d'un ruban avec des petites fleurs qui rappellent les couleurs fleuries des compagnons tailleurs de pierre qu'on verra apparaître, en tout cas de façon plus certaine, plus tard dans l'époque moderne.
Nicolas Adel.
Oui, je trouve l'archive qui a été présentée très très intéressante parce que effectivement ces trois personnages dont a parlé Roger Lecôté se fixent dans les représentations, y compris visuelles dans le courant du 19e siècle hein, en vérité. Et l'origine des noms, c'est toujours quelque chose qui a beaucoup intéressé enfin les compagnons qui étaient vraiment Jacques et qui étaient vraiment Soubise. Bon pour Salomon ça c'est un peu autre chose. Et une proposition qui a été faite, c'est de considérer qu'en fait il s'agit pas vraiment de personnages qu'il s'agirait de retrouver, mais des noms propres qui ont été fabriqués, peut-être parfois même à partir de noms communs. Une idée est que Maître Jacques, en fait, à l'origine, c'est un qualificatif qu'on associait aux compagnons au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui avaient tendance, pendant leur tour de France, à faire des niches, à embêter les maîtres, à aller taquiner un peu les artisans sédentaires, à faire la fête, etc. Et on disait « ils font les Jacques ». Et progressivement, l'idée de que ce nom commun qui leur était associé est devenu un nom propre dont qu'ils ont fini par revendiquer.
Avec François Rivière, dans ce monde, et je l'entends bien, on va pas parler de corporation au Moyen-Âge, mais dans ce monde du travail où il y a besoin de maîtres, de valets, de formation, il y a besoin d'identité aussi. Nous sommes dans des mondes cloisonnés pour les métiers. Une fois que nous entrons dans un métier, nous y restons. Et puis, en réalité, nous sommes nous-mêmes issus de ce monde-là parce que enfants de tailleurs, enfants de cordonniers.
Alors non, souvent c'est plutôt assez fluide. Ce qu'on pourrait appeler entreprises médiévales sont de courte durée. C'est l'entreprise familiale peut se transmettre. Dans les règlements, il y a souvent des dispositions qui sont là pour favoriser les fils de maître ou les filles de maître d'ailleurs. Si on regarde les listes de noms, très souvent il y a un très fort renouvellement, que ce soit au XIVe ou XVe siècle. C'est aussi dû évidemment à des périodes qui sont difficiles où il y a beaucoup de mortalité, où il y a des migrations pour fuir les guerres. Et puis, il faut évidemment prendre en compte l'extrême diversité du Moyen-Âge. En revanche, en termes de cloisonnement, c'est-à-dire que chacun est dans sa ville. On peut changer de ville, mais à ce moment-là, il faut, si on est dans un métier organisé, remontrer patte blanche, montrer qu'on a fini son apprentissage éventuellement. Chaque organisation est très locale et va de fait fendre la production de draps de tel endroit, puisque ça va avec une marque souvent. Et puis on pourrait évidemment retrouver des histoires de marques dans la construction aussi, mais je vais peut-être laisser la parole.
De marque au sens où...
De marque où on marque sa pierre. Ça, de manière, c'est une trace... Pour payer un tailleur de pierre, on va le payer au nombre de pierres qu'il a marquées avec son signe, en faisant une trace avec un outil. Et donc c'est comme ça qu'on peut les retrouver. D'ailleurs, en archéologie, on se sert beaucoup de ce genre de marques sur les pierres pour comprendre la construction des cathédrales et d'autres bâtiments.
D'ailleurs, c'est un passage obligé au moment de la visite d'une cathédrale, d'une église, où le guide nous dit « Regardez, là, il y a la marque du tailleur de pierre, un V, une croix, parce que voilà, ça, c'est la pierre ainsi construite. » C'est vrai que nous avons l'identification dans ce métier-là, on le sent, c'est important avec ces légendes, avec ces marques, parce que faut se faire payer, mais aussi c'est je montre que je sais bien faire. Virginie Tostin, c'est vraiment cela. Est-ce qu'on peut parler ici avec ces compagnons du Tour de France, ces compagnons du devoir, de l'idée que nous sommes compagnons? On n'est pas exactement comme les autres, c'est ce qui se construit, j'ai l'impression, au fil du temps.
Oui, c'est vrai, et ça relève de plusieurs dimensions. D'une part, ce sont des ouvriers qui se revendiquent très très qualifiés, et c'est vrai que le Tour de France, ce voyage de plusieurs années, permet de se former sans doute mieux qu'un ouvrier qui va rester toute sa vie attaché au même maître, à la même entreprise, et c'est encore vrai aujourd'hui. Enfin, notre propre itinérance dans nos métiers nous permet d'apprendre beaucoup plus que si on reste toute sa vie au même endroit. Donc ça, c'est plutôt du bon sens. Et puis, ce qu'on n'a pas évoqué encore, c'est que ce sont aussi des sociétés à caractère initiatique, et que ces rites de passage vont obliger les compagnons dans ce temps du Tour de France et lors de la réception à progresser toujours quelque part.
Oui, François Rivière.
Alors, je voulais juste rappeler que, en termes de confrérie, il y a beaucoup de choses qui sont médiévales, alors qui sont légèrement différentes de ce qu'on peut appeler compagnons du devoir, mais où les salariés ont une place beaucoup plus évidente que dans les organisations de métier où sont les maîtres qui décident un peu de tout. Souvent associé à une organisation de métier séculière, il y a une confrérie religieuse, et dans la confrérie religieuse, les apprentis, mais aussi les valets, et les compagnons au moment où on les appelle compagnons, cotisent pour participer justement aux cérémonies globales, notamment les funérailles, qui sont souvent payées en partie par la confrérie et qui rassemblent la communauté à ce moment-là. Et parfois, il y a des confréries spécifiques aux subordonnés qui peuvent s'opposer à ce moment-là aux maîtres. Donc on retombe dans cette idée qu'on peut aller taquiner les maîtres.
Voilà, c'est toujours très bien d'aller taquiner les maîtres. Nicolas Adel, des hommes de devoir, vous commencez votre étude sur les compagnons du Tour de France au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, y a-t-il une identification qui se renforce des compagnons, pour le dire autrement? Pourquoi à ce moment-là, on sent bien que le compagnonnage prend une forme particulière?
Oui, effectivement, au XVIIIe siècle, le compagnonnage commence à prendre la forme qu'on va lui reconnaître et qu'on lui reconnaît toujours aujourd'hui. Alors, pourquoi il y a effectivement l'idée de restructurer une organisation qui emprunte en partie au système ou plutôt à la formule de la confrérie, c'est-à-dire que effectivement l'organisation compagnonique se met à prendre et à organiser des caisses mutuelles pour les funérailles, mais aussi pour prendre en charge un ouvrier, un compagnon qui serait malade et qui serait dans l'incapacité de travailler. Et le compagnonnage le revendique encore un peu aujourd'hui. C'est le premier système de la mutualité ouvrière et une forme de proto-syndicat, ce qui leur a posé ensuite beaucoup de problèmes quand les syndicats se mettront en place à la fin du XIXe siècle. Mais l'autre raison, c'est que le compagnonnage à la fin du XVIIIe siècle doit affronter finalement la fin du système corporatif, et finalement tous ces maîtres, tous ces artisans sédentaires, surtout d'une manière plus générale, vis-à-vis desquels les compagnons se distinguaient, qu'ils allaient taquiner et contre lesquels en fait ils construisaient leur identité de vagabonds, d'errants, de jeunes aussi, hein, c'était plutôt des jeunes. Bah comme ce système disparaît, bah que faire? Est-ce que le système compagnonique disparaît avec? Ou est-ce qu'il faut réinventer la formule? Et c'est ce qui se passe, on réinvente la formule et les compagnons vont prendre en charge désormais la vie entière des individus qui vont intégrer l'organisation, ce qui n'était pas le cas avant. Jusqu'au début du 19e siècle et encore au milieu du 19e siècle, en fait, on est compagnon très temporairement. On rentre, on fait sa jeunesse au sein d'une formule compagnonique et puis on quitte le compagnonnage en remerciant les frères qui vous ont accueilli. Et à partir du milieu du 19e siècle, en fait, on devient compagnon. L'idée, c'est qu'on devient compagnon pour la vie.
On devient compagnon et on le reste, Virginie Tostin, parce que c'est ça, c'est une histoire de formation. Quel moyen adopter pour être le mieux formé possible? On comprend le compagnonnage extrêmement efficace avec le système de Tour de France. Et dans le même temps, autre chose se construit. On devient compagnon et on reste compagnon toute sa vie.
Oui, puisque le compagnonnage, ça n'est pas uniquement le perfectionnement professionnel, c'est aussi un perfectionnement moral. C'est d'ailleurs sans doute ce qui explique les caractéristiques initiatiques aussi de ces mouvements. On va devoir, tout au long de ce Tour de France et de ce temps de l'aspirana, ce qu'on appelle l'aspirana, c'est-à-dire qu'avant d'être reçu compagnon, on va devoir faire ses preuves. Et donc... on va devoir aussi montrer que certes que techniquement on est au point, mais ça on a déjà été formé en fait, donc le Tour de France ça consiste vraiment en un perfectionnement, et puis on va devoir aussi se construire en tant qu'homme, en tant que femme maintenant, avec toutes les vertus et la morale qui est régulièrement répétée, assénée dans les maisons, dans les auberges qui accueillent les compagnons pour les périodes plus anciennes.
En tant que femme maintenant, on peut rappeler la date à laquelle les femmes ont pu devenir... On dit compagnon pour une femme?
Ah, c'est un débat sans fin, compagnon. Moi, j'aime bien dire compagnonne, mais ce n'est pas admis aujourd'hui dans le compagnonnage.
Et c'est quand?
Alors, c'est 2004, si on est vraiment sur une date très officielle. Pour les compagnonnages qui sont, on va dire, reconnus aujourd'hui en France, il existe tout un tas de petites sociétés compagnoniques avec peu de membres, peu reconnues, qu'on appellera dissidentes ou paracompagnoniques. Et il y a une toute première réception, en fait, historiquement documentée en 1978. Mais officiellement, la date officielle aux yeux des compagnons, c'est 2004.
Oui, donc c'est extrêmement récent. Dans cette histoire des compagnons du devoir, des compagnons du Tour de France, il y a beaucoup de secrets.
Révèle-moi ton secret, ta puissance, en un seul mot je prétends tout savoir. Vous resterez toujours dans l'ignorance, car nous gardons le secret du devoir. Vous resterez toujours dans l'ignorance, car nous gardons le secret du devoir. Je t'offrirai des châteaux, des richesses, je te ferai comte ou grand chevalier, et pour compagne une belle princesse, dans mon palais, tu seras le premier. Je t'offre encore mon sceptre et ma couronne. Viens avec moi partager le pouvoir. Gardez vos biens, gardez votre trône, car nous gardons le secret du devoir. Gardez vos biens et gardez votre trône, car nous gardons le secret du devoir.
Chant de conduite des compagnons ici en 1953, c'est la date de cet enregistrement. Nous avons l'évocation de ce compagnon qui refuse tout l'or, la position sociale prestigieuse parce qu'il va conserver le secret. Nicolas Adel, nous avons ici qui se mélange l'idée d'une identité très particulière, on l'entend bien, et du secret qui permet aussi de conserver cette identité. C'est ça qui est fascinant, c'est... comme s'il y avait une conservation du savoir, mais le savoir par l'excellence.
Oui, c'est tout à fait vrai, et c'est très important pour les compagnons cette dimension du secret. Alors, ils préfèrent évidemment, enfin ils refusent par ailleurs aujourd'hui d'être qualifiés de société secrète, ce qu'ils ne sont pas, hein, puisque ils sont très très connus, très installés dans le monde. Ils préfèrent parler volontiers de discrétion, de société qui a des secrets. La fonction de ce secret, évidemment, le contenu importe peu, comme dans pratiquement toute situation de communauté à secret. C'est pas tellement le contenu, c'est le fait que ça permet de distinguer à l'intérieur d'un ensemble des groupes dissociés et qui permettent d'organiser une progression sociale, ici représentée par une progression dans l'accès à la connaissance. Mais ce qui se passe, par exemple, dans le cadre de l'organisation initiatique chez les compagnons, c'est que, en fait, on va se mettre à initier quelqu'un. Mais dans le cadre de l'initiation, les connaissances qui sont données sont en quelque sorte relatives et on demande, en fait, après l'initiation à la personne d'acquérir les connaissances qu'elle est censée posséder au moment de l'initiation. Puisque l'initiation est plutôt un moment qui est fait pour impressionner, un moment qui est fait pour manifester un attachement et une progression dans son identité de compagnon et pas tellement un lieu d'acquisition stricte des connaissances au sens où ce serait une salle de classe un peu particulière.
Oui, voilà. C'est ça, avec François Rivière, la place du secret dans la formation au Moyen-Âge. Parce que la question se pose, bien sûr, hein, quand on ne veut pas de concurrence, on garde son savoir. Et c'est tout à fait logique, et aujourd'hui encore, c'est le cas pour une entreprise. Il y avait du secret au Moyen-Âge ?
Alors, il y a du secret au Moyen-Âge, mais puisque c'est secret, on a du mal à le savoir. Alors, dans les clauses des contrats d'apprentissage en Angleterre, souvent, il y a des clauses de secret à la fin du contrat. Mais dans le cas français, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Donc moi, je le connais beaucoup moins bien. Les mentions textuelles de secret ou les allusions qu'on pourrait avoir même dans des procès à des secrets sont vraiment très très rares dans ce que je connais. Je sais qu'il y a de l'espionnage industriel en Italie, on en a quelques cas en France dans le cas de la soierie, des choses comme ça, mais vraiment on n'est pas, c'est pas tellement dans le cadre du compagnonnage que je vois ce genre de choses. En revanche, les compagnons peuvent être engagés eux-mêmes dans l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent former un apprenti à l'intérieur d'atelier sans que ce soit le maître. Et là, on voit bien qu'il peut avoir différents degrés de connaissance et une forme voilà, de gestion de la connaissance.
Et puis un degré de reconnaissance aussi, parce que si nous sommes compagnons, nous reconnaissons les autres compagnons. Virginie Tostin, vous avez d'ailleurs parlé de compagnonnage au pluriel. Vous avez dit les compagnonnages. Pourquoi ?
Parce que, en tout cas, jusqu'à cette reconfiguration des compagnonnages dont a parlé Nicolas au XIXe siècle, sous l'Ancien Régime, on a une organisation des sociétés de compagnonnage qui, effectivement, fait un peu le parallèle avec les confréries ou le système corporatif, c'est-à-dire qu'on s'organise en fonction de son métier. Et ça reste quand même la porte d'entrée du compagnonnage, c'est de pratiquer un métier. C'est ce qui va distinguer aussi le compagnonnage, la franc-maçonnerie par exemple. Donc on entre d'abord dans le compagnonnage parce qu'on a appris son métier. Et à chaque métier, à chaque société qui se constitue au XVIIe, XVIIIe, donc que ce soit des tailleurs de pierre, des charpentiers, des couvreurs, des cordonniers, enfin il y a une trentaine de métiers en tout, hein, qui sont des métiers de l'artisanat, eh bien il y a des subtilités en fait. Chacun va avoir des devoirs spécifiques. Voilà, le devoir, c'est vraiment l'ensemble des rites, des règlements qui fondent l'identité de la société et des compagnons. Et à l'intérieur de chacune de ces sociétés, on va avoir des petites subtilités. Et il y a parfois eu des hostilités entre sociétés parce que justement un rite ressemblait trop à un autre, parce que la canne d'un tel ressemblait trop à celle d'un autre. Et voilà, pour autant qu'il y ait beaucoup de transmission chez les compagnons, il y a aussi effectivement cette idée de garder un peu jalousement quand même cette communauté, en tout cas d'y entrer que quand on le mérite.
Voilà, c'est ça, hein, parce qu'il y a l'idée de communauté aussi, Nicolas Adel, il n'y a pas le compagnonnage au XVIIIe siècle, comme et vient d'être évoqué les francs-maçons, comme une société secrète qui existerait, qui serait le compagnonnage.
Non, absolument. Il y a pas du tout cette représentation-là. C'est vraiment une pluralité, une mosaïque à la fois de métiers, d'activités, mais à l'intérieur même de métiers, plusieurs façons de le réaliser et de le vivre, hein, puisque on l'a dit, le compagnonnage peut être avant même de former à de l'excellence technique, à d'abord former à de l'excellence éthique. En fait, c'est un peu à ça que le compagnonnage au début du 19e siècle se prépare. Et la fonction du secret, pour revenir là-dessus dans cette affaire, c'est sans doute d'abord de construire de l'éthique et de devenir un peu plus sérieux, puisque on l'a dit, les compagnons c'était d'abord plutôt au XVIIe au XVIIIe siècle des jeunes qui taquinaient des anciens pour dire les choses comme ça. Et quand ce système doit se repenser, en fait, il faut que le compagnonnage devienne un peu plus sérieux, un peu plus grave, un peu plus dramatique. Et là, les rites se repensent. Là, des gens réfléchissent et il y a des des compagnons qui écrivent dans leur correspondance qu'ils trouvent que leurs rites ne sont pas assez sérieux et que donc il faut renforcer la gravité des rituels. Et à ce moment-là, chaque société compagnonique va avoir sa façon de dramatiser en quelque sorte les épreuves. Et parfois, à l'intérieur de ces épreuves, des philosophies différentes vont se manifester. Et ça peut donner lieu à des luttes entre compagnons qui ne partagent pas exactement la même philosophie.
François Rivière.
Alors, je suis très intéressé par ce qui vient d'être dit et je voulais rebondir peut-être sur ces notions d'artisanat, qui est un terme qui a été employé aussi par Virginie auparavant, parce que pour les médiévistes, il y a un petit débat qui est apparu sur l'utilisation du terme industrie pour le Moyen-Âge par rapport à l'artisanat. Parce que finalement, cette opposition artisanat-industrie, c'est quelque chose qui émerge au 19e siècle, quand l'industrialisation finit par renvoyer d'autres modes de production vers le passé. Et du coup, je me demandais s'il y avait un lien justement dans cette évolution du compagnonnage du XIXe siècle avec cette volonté de se distinguer d'une industrie où le savoir n'est pas géré de la même manière.
Et parce que c'est ça aussi, hein, faut recontextualiser systématiquement l'organisation sociale. Virginie Tostin, là où le compagnonnage cherche à se donner une histoire linéaire, très ancienne et légendaire, la réalité, c'est que ce compagnonnage, ou ces compagnonnages, s'adaptent aux différents contextes.
Je pense que les compagnonnages n'auraient pas survécu s'ils ne s'étaient pas constamment adaptés à la société dans laquelle ils existent. On l'a vu déjà, Nicolas donnait des exemples de cette recomposition au XIXe siècle. C'est vrai que le XIXe siècle, traversé par toutes les vagues d'industrialisation, ont aussi obligé les compagnons à s'organiser différemment. On sait que, par exemple, la place du chef-d'œuvre, dont on reparlera peut-être, était probablement assez peu significative sous l'Ancien Régime, voire même parfois inexistante, alors qu'au XIXe siècle, face justement à cette industrialisation, à la création d'emplois moins qualifiés, les compagnons vont aussi vouloir mettre en valeur ce travail artisanal, le travail de la main, ces capacités techniques qui sont en train aussi d'être un petit peu mises à mal.
Nicolas Adel, le chef-d'œuvre du XVIIIe siècle, s'il existe, n'est pas du tout ce chef-d'œuvre du XIXe siècle, c'est-à-dire l'œuvre majeure qu'un compagnon peut présenter à un moment de son existence.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et ce que disait Virginie est très juste. C'est que, en effet, longtemps, la place de ce qu'on appelle le chef-d'œuvre pour devenir compagnon a été relative. Elle était soit dans certains métiers inexistante et parfois n'était de toute façon pas la dimension la plus importante. Par ailleurs, il y avait une pluralité effectivement de chefs-d'œuvre. On pouvait réaliser des chefs-d'œuvre individuels qui pouvaient servir à progresser dans sa société. Parfois, c'était des chefs-d'œuvre tout simplement qui servaient à prouver de façon, artistique ses capacités techniques. Parfois, on faisait des chefs-d'œuvre qu'on appelait ensuite des chefs-d'œuvre pédagogiques, c'est-à-dire des chefs-d'œuvre qui servaient de support d'enseignement à l'intérieur des maisons de compagnons. Et puis, il y avait beaucoup, et c'est très souvent à ça que fait référence le terme de chefs-d'œuvre au XIXe siècle, ce sont des chefs-d'œuvre collectifs. Des chefs-d'œuvre qui servent à représenter, à emblématiser une société de compagnons en particulier, et il y avait parfois des compagnonnages qui rivalisaient par chefs-d'œuvre interposés.
Nicolas Adel, peut-on dire que le dénominateur commun de tous ces compagnonnages, c'est le Tour de France, c'est l'itinérance?
Oui, tout à fait. Et ça, effectivement, sans doute depuis longtemps, le compagnonnage, c'est vraiment une formule qui est fondée sur l'itinérance et qui va appuyer sa formation sur cette itinérance, c'est-à-dire sur cette capacité à maîtriser des savoirs hors de sa région, à pour un couvreur par exemple, être aussi bien capable de maîtriser les techniques de la tuile canale, de l'ardoise, mais aussi de la lauze, enfin, etc. Et c'est probablement une des différences, comme l'a dit aussi Virginie un peu plus tôt, qui entre le compagnonnage et d'autres formations professionnelles, où cette place de la pluralité des savoirs qu'il est nécessaire de maîtriser est sans doute un petit peu moins grande.
Alain Le Tourangeau, compagnon menuisier du Doigt, itinérant. Je suis parti de Lille il y a 8 ans maintenant, ayant fait une dizaine de villes. Et depuis le mois de septembre maintenant, je suis arrivé à Nîmes pour repartir au mois de juillet, faire encore peut-être une ville et savoir s'arrêter. J'ai commencé à Lille en 70, Reims, tout l'hiver 71 à Reims, La Rochelle, Toulouse, Nantes, Nantes, de Nantes, je n'ai pas resté à Nantes, j'ai monté à la campagne, c'est-à-dire à côté de Brest. Après, je suis parti à l'armée et j'ai fait Angers, Saint-Étienne, Lyon, où j'ai été reçu compagnon, Bordeaux et Nîmes actuellement. Et au début, c'est très dur au début. Il y a des jours, on aurait plutôt envie de retourner chez soi.
Ah bah oui, c'est sur RFI en 2005 que s'exprimait Alain Le Tourangeau, qui évoquait donc son Tour de France. Donc François Rivière, on le rappelle bien, le Tour de France n'a pas attendu les compagnons, ou plutôt l'itinérance n'a pas attendu la formation du compagnonnage. Hein.
Alors non, on trouve des formes de reconnaissance d'une itinérance d'ouvrier, et donc finalement on voit l'intérêt, c'est ce que Virginie disait tout à l'heure, en termes de partage de connaissances chez ces cordonniers 1419. Auparavant, c'est juste un accueil d'ouvriers vagabonds. On leur laisse un temps limité, ça peut être 8 jours, mais ça peut être un peu plus long, un mois ou deux, pour rester dans une ville sans faire les formalités qui peuvent être exigées. Et c'est dans la deuxième moitié du 15e siècle, donc on est déjà quasiment plus dans le Moyen-Âge, hein, la Constantinople est déjà pris par les Ottomans, voilà, on est un peu dans la marge, que là vraiment ça se diffuse et qu'on voit ces compagnons qui apparaissent dans les statuts de métier corporatifs. Alors ils sont inclus dans tout ce système-là et donc ils n'ont pas l'autonomie qu'ils peuvent avoir chez les compagnons du devoir, mais on peut demander d'eux déjà un degré de compétence, des examens spécifiques pour, en plus de leur apprentissage, passer compagnon, éventuellement rester quelques années compagnon avant de devenir maître, même si à cette époque-là ça reste relativement rare et un peu marginal par rapport à l'ensemble des métiers qui sont déjà organisés, qui eux-mêmes sont marginaux par rapport à l'ensemble du monde du travail. Il faut le rappeler, on est quand même dans une niche un peu particulière en termes de gestion du travail et de la connaissance.
Et il faut en faire des kilomètres, hein, parce que nous parlons de Tour de France, sachant que la notion de France est une notion qui pourrait être largement discutée ici quand nous évoquons le Moyen-Âge et le après. Mais que reste-t-il aujourd'hui, Virginie Tosta, quand on va au musée du compagnonnage à Tours, qui évoque ces kilomètres parcourus par tous ses compagnons?
Le compagnon reçoit lors de sa réception quelques attributs, traditionnellement par exemple la canne, alors qui peut faire penser au bourdon de Saint-Jacques. On parlait tout à l'heure de la référence à Saint-Jacques pour Maître Jacques chez les compagnons. Donc voilà, cette canne, elle symbolise l'itinérance. Chaque compagnon en reçoit une. Ça fait partie des objets que l'on collecte, souvent d'ailleurs à titre très personnel. Ce sont des compagnons qui soit les emportent dans la tombe, soit les donnent au musée, ou les passent à un plus jeune aussi, ça peut arriver. Il y a encore une fois cette forte notion de transmission chez les compagnons. Et puis depuis quelques années, on a aussi essayé de vraiment mettre en avant des témoignages comme celui qu'on a entendu là dans l'archive, de ce qu'est la réalité de l'itinérance aujourd'hui, puisque les objets sont évocateurs, mais la parole aussi des compagnons contemporains est très très intéressante pour comprendre que chaque Tour de France est différent, qu'ils sont aussi tout à fait relatifs au métier pratiqué. Il peut être plus ou moins long. On peut passer une année dans une ville ou 6 mois seulement, ce qui est beaucoup plus court en termes de gestion de son voyage. On peut maintenant partir à l'autre bout du monde. Il y a des compagnonnages, enfin en tout cas l'association ouvrière qui vraiment enjoint les jeunes itinérants à aller faire une année à l'étranger comme un Erasmus du compagnonnage. Et ils en retirent évidemment pas uniquement là des connaissances professionnelles, c'est certain.
Nicolas Adel, c'est pas rien, ça aussi, de parcourir autant de kilomètres. Est-ce qu'il y a des indications sur la manière dont se réalise ce Tour de France? C'est-à-dire, c'est un compagnon qui part seul, ils partent en groupe, puis il faut savoir où aller, parce que c'est pas tout de partir, mais il faut trouver un point de chute.
Oui, alors ça, c'est comme le reste chez les compagnons. Ça a beaucoup changé, évidemment, dans le temps, entre le début du 19e siècle et nos jours. On a des formes de Tour de France qui sont non pas seulement élargies au monde entier, mais qui ont des formes tout à fait différentes. Une des grandes ruptures, probablement, y compris intellectuelle, chez les compagnons, c'est la généralisation de la voiture. Le fait que la voiture se généralise, ça a changé totalement la manière dont le Tour de France s'est fait, et même plus précisément la manière dont on partait des maisons. Puisque très souvent, les départs étaient des départs accompagnés, collectifs, à pied jusqu'aux portes de la ville, et puis on pouvait rejoindre une gare, ou parfois même prendre le bateau. Et l'apparition et la généralisation de l'usage de la voiture a rendu plus individuel, et surtout a éparpillé un petit peu ce moment du départ qui était très important et qui était un moment de renforcement en fait de l'identité. Mais sur le Tour de France par ailleurs, ce qui est aussi important, et ça a été dit dans l'archive par Alain Le Tourangeau, c'est aussi la difficulté. Enfin, c'est très difficile. Ils disent, il y a des fois on a quand même envie d'être plutôt chez soi. Et il faut bien noter que beaucoup finalement de gens qui entreprennent le Tour de France ne terminent pas déjà le Tour de France. Et cette difficulté, c'est d'abord les journées de travail qui sont très longues, puisqu'on fait son travail en entreprise, on rentre à la maison des compagnons, là on a encore les cours du soir qui sont donnés, et puis après les cours du soir, il y a encore à s'adonner un peu tous les jours à l'exercice qu'on vous demande de faire pour la fin de l'année, qui est un petit travail de maquette, et qui dans certaines années particulières, c'est le travail de réception, donc la réalisation du chef-d'œuvre.
Nicolas Adel, vous venez de rappeler que c'est Alain Le Tourangeau qui s'exprimait, et ce qui permet d'évoquer ici, c'est tellement important sur l'identification, ces surnoms donnés par les compagnons à d'autres compagnons, ou peut-être des surnoms qu'ils se donnent eux-mêmes.
Oui, ce sont des le surnom ou le nom compagnonique, ça fait partie de l'identité du compagnon. C'est une façon d'organiser aussi la progressivité de l'acquisition de cette identité, puisqu'on commence par acquérir d'abord un morceau de son nom, très souvent un morceau de la province. Beaucoup de noms de compagnons sont composés de deux parties, un nom de région ou de ville, toulousain, occitan, parisien, tourangeau, etc. Et le nom d'une qualité, par exemple l'ami du trait, la fierté, cœur loyal, etc., la sagesse, etc., etc. Dans le cas d'Alain Le Tourangeau, il fait partie d'une des seules sociétés où le nom compagnonique n'est composé que du prénom et de l'origine géographique. Et cette acquisition du nom qui se fait progressivement dans le cadre des rites d'initiation est une composante essentielle et rajoute sur la nécessité de cette excellence et de l'importance de cette excellence éthique, puisque ce sont des vertus que l'on met en évidence.
Virginie Tostin, pourquoi Tours au cœur de cette réflexion? Parce qu'on cite Alain Le Tourangeau, il y a le musée du compagnonnage à Tours, et quelque chose de spécifique?
Il y a toujours eu effectivement beaucoup de compagnons à Tours. D'une part parce que c'est une ville sur la Loire et que une grosse partie de l'organisation du Tour de France, alors c'est pas le seul fleuve qui est concerné, mais à l'époque où on fait le trajet plutôt à pied, on va suivre le cours du fleuve. Donc par exemple, il est pas rare de croiser des compagnons au XVIIIe siècle qui passent par les villes d'Orléans, de Blois, Tours, Saumur, Nantes. Voilà, et puis ensuite on va éventuellement partir par bateau pour rejoindre Bordeaux, et ensuite on va continuer là évidemment également le long des cours d'eau. Donc Tours, c'est aussi une ville où il y a quasiment toujours eu pas mal de sociétés présentes. Il y a eu des gros chantiers de construction dans cette région à la Renaissance notamment. Il y a aussi des pas mal de tanneries, parce qu'on a aussi des tanneurs cobrailleurs qui font partie du compagnonnage. Bref, pas mal de métiers concernés. Et un premier musée, l'embryon du musée actuel, qui apparaît dès 1911 et qui s'organise par les compagnons eux-mêmes, en fait, par l'Alliance compagnonique Tourangelle, qui crée dans le même temps, en 1911, le premier musée compagnonique et aussi la première société protectrice des apprentis, parce qu'on commence à formaliser la protection des apprentis, les cours du soir pour les apprentis, ce qui donnera lieu ensuite à la naissance des CFA.
D'accord, ok. Cette longue histoire, nous avons commencé au Moyen-Âge, au pied des cathédrales, et nous en sommes aujourd'hui au CFA, avec ici, pour l'évocation de ses compagnons, toute l'idée d'un Tour de France, avec ses apprentis, CFA, les centres de formation d'apprentis, et des lieux où s'arrêter. Parce que c'est pas tout de partir sur la route. Avant les voitures, on a évoqué les voitures, mais avant les voitures, fallait marcher longtemps. Jusqu'où et jusqu'à qui?
Ici la Cayenne des compagnons charpentiers du devoir du Tour de France. Pour les non-initiés, et il n'y a pas très longtemps que je le suis, et la Cayenne, c'est le 161 avenue Jean Jaurès, la maison, l'association, et qui rassemble les charpentiers, les menuisiers, les maçons, les serruriers, les tailleurs de pierre et j'en passe, qui sont initiés, qui sont intégrés à la corporation la plus vieille du monde, puisqu'elle est née, m'a-t-on dit, avec nos toutes premières églises gothiques. Des centaines de compagnons sont venus de toutes les villes, de toutes ces autres Cayennes où passent et sont hébergés les apprentis, les candidats compagnons qui font encore comme autrefois, comme leurs ancêtres, leur Tour de France du métier. La foule est très nombreuse. Nous attendons la sortie de la mer que des compagnons intronisent actuellement. Et c'est une cérémonie secrète dans des locaux où je ne peux pas pénétrer, évidemment. Mais des mères anciennes, celles qui ont été intronisées les années précédentes, attendent la sortie de la nouvelle intronisée pour la féliciter. Je vais demander à la dame qui s'approche de moi, quel est le rôle exact de la mère dans une Cayenne ?
Eh bien, le rôle de la mère dans une Cayenne, c'est de soigner les jeunes, de les élever, de les soigner s'ils sont malades, n'est-ce pas ?
C'est ça, vous êtes en quelque sorte la bonne hôtesse au sens le plus pur du mot.
Ah bah oui, c'est ça. La bonne hôtesse, le sens le plus pur du mot, puisqu'il y a des femmes dans cette histoire. Là, nous étions en 1955 avec la Cayenne. Nicolas Adel, qu'est-ce qu'une Cayenne d'ailleurs ? C'est ici, je l'entends comme une auberge où l'on accueille des compagnons.
Oui, c'est le lieu dans lequel les compagnons ou ceux qui ne sont pas encore compagnons et qui font partie de la société et qui sont sur le Tour de France, c'est le lieu où l'on vit, c'est le lieu où l'on se retrouve, où les compagnons mangent ensemble, pour le coup partagent le pain, et c'est une obligation de partager ces repas ensemble. C'est le lieu où l'on enseigne aussi, alors parfois les lieux d'enseignement étaient dissociés, mais c'est aussi le lieu d'enseignement. C'est vraiment le lieu de la sociabilité compagnonique où véritablement une société prend corps et prend forme. Et au sein de cette Cayenne, effectivement, ce personnage de la mère et occupe une place particulière et très importante.
François Rivière, est-ce que quand nous évoquons tout cela, sachant que nous avons passé le 17e, le 18e siècle, on sent que l'univers du 19e siècle est là, l'industrialisation, la volonté de montrer son chef-d'œuvre, parce que la peur de perdre les savoirs, la Cayenne, est-ce que tout cela est très éloigné de la construction d'une formation au Moyen-Âge ?
Alors oui, c'est assez différent. Alors on trouve des chefs-d'œuvre au Moyen-Âge, la notion de chef-d'œuvre, mais elle va être dans un système là que maintenant on appelle corporatif, en tout cas un système où c'est pour passer maître souvent qu'il faut passer le chef-d'œuvre, et ça apparaît déjà voilà, parfois fin du XIIIe siècle, mais surtout XIVe siècle, c'est le moment où ça se développe. Au XIIIe siècle, c'est plutôt des examens, donc on ne fait pas forcément un chef-d'œuvre. Mais au XIVe siècle, tout de suite, ça pose problème. C'est-à-dire, justement, c'est ce qui crée des compagnons, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire le chef-d'œuvre pour devenir maître et avoir le droit d'exercer de manière autonome, ce qui donne lieu à des procès parce que ça peut être un peu abusif, ou alors ils tentent de faire un chef-d'œuvre et ça leur est refusé de manière injuste par les maîtres. Donc le système d'apprentissage est très différent. Le système de logement va aussi être différent, mais donc le terme de Cayenne, je ne l'ai pas rencontré du tout au Moyen-Âge. On retrouve le terme de loge dans les métiers de la construction, parce que là, c'est lié aux différents chantiers temporaires, et on est accueilli dans une loge, et c'est vraiment là, les ouvriers n'habitent pas dans une famille qui les accueillerait. Donc parfois, le valet ou le compagnon peut aussi travailler chez lui, mais être salarié d'un maître à côté, ça c'est possible aussi. Mais de toute manière, ils vont pas à ce moment-là. Voilà, c'est très différent de manger ensemble et faire une formation le soir. Je voulais revenir sur cette histoire de Tour de France, puisque finalement, dans les premières mentions qu'on a dans la construction, alors c'est pas au moment des cathédrales du XIIIe siècle, mais c'est en 1459 qu'on a des statues à Ratisbonne, donc on est plutôt du côté allemand, ou Strasbourg, enfin c'est côté germanique réellement pour cette époque-là, qu'on a des statues qui prévoient une année ou deux années de voyage, en fonction de, si on veut dire maître, il faut deux années, pour devenir maître, et une année aussi pour devenir compagnon, avant de pouvoir pratiquer le métier dans un ensemble de loges qui se répondent les unes aux autres et qui gèrent des conflits les unes aux autres. Mais c'est à ce niveau-là que ça intervient. Et donc là, on voit bien que le voyage est prévu, pas forcément seulement dans le cadre français, éventuellement dans un cadre plus européen.
Avec cette identification, et je l'entends bien ici, fait de rites de chansons aussi, auditrice qui nous dit qu'elle est en train de chanter, c'est un Picard, c'est un Normand, un Champenois là du côté de l'Isère, parce que c'est tout cela aussi qui fait le compagnonnage. Nicolas Adel, dans l'histoire du compagnonnage ou des compagnonnages du XVIIIe siècle, confrontés à l'industrialisation au XIXe siècle, est-ce qu'on assiste à un bouleversement pour s'adapter au changement de contexte ? Est-ce que dans l'histoire de ces compagnons qui se regardent, alors peut-être parfois avec rivalité, on a la volonté d'unir l'ensemble des mouvements ?
Alors, il y a cette volonté, elle est d'abord assez marginale, hein, mais elle existe au XIXe siècle, et un compagnon la représente en particulier. Ce compagnon, c'est Agricole Perdiguier, qui est aujourd'hui probablement la figure la plus œcuménique au sein du compagnonnage. C'était un compagnon menuisier qui, entre 1800, milieu des années 1820 et la fin des années 1860, a beaucoup œuvré, c'est-à-dire qu'il a beaucoup transmis sa parole par les textes, mais aussi par des chansons et pendant son tour de France, pour travailler justement à ce que les compagnons cessent leurs luttes internes. Il a aussi beaucoup œuvré pour la reconnaissance de la partie formative au sein du compagnonnage. Lui-même enseignait, transmettait l'art de la du trait de menuisier et était par ailleurs un très bon ouvrier. Et il insistait sur cette dimension technique et puis sur la question de la solidarité, la mutualité ouvrière. Pour lui, c'était une dimension très importante. Et donc oui, il y a cette figure-là qui aujourd'hui reste dans les mémoires comme étant probablement celui qui a le plus œuvré pour l'unification du compagnonnage et sa transformation de société, on va dire, taquine, un peu batailleuse, vers une société proprement tout à fait très, très sérieuse déjà, et puis vraiment orientée vers la formation.
Oui, voilà, faut effacer cette image de société secrète, batailleuse, je le retiens, mais pas envers les autres, parfois envers les autres sociétés de compagnonnage.
Pourquoi cette tombe clandestine comme un vagabond?
On se porte mieux d'en dire le moins possible aux gendarmes. Dans nos sociétés...
Société de bandits! Société de sanguinaires! Antoine allait avoir 20 ans. Qui était-il?
Les premiers qui nous attendaient. Et qui nous ont tapés venaient de la carrière. Des tailleurs de pierre.
Qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir contre vous, compagnons menuisiers?
Des compagnons étrangers. Enfants de Salomon, donc nos ennemis, monsieur. Et ceux qui venaient ensuite. Menuisiers de Gaveau. Les pires de tous. Assassins de nature. Toujours barbouillés du sang des honnêtes dévoirants.
Leur nom?
Ceux qui menaient ces chaînes Gaveau étaient deux. Vaudou à la grosse patte. Et le pire de tous, Tourangeau sans quartier.
Où qu'il soit, je le retrouverai.
Sacré Tourangeau sans quartier. C'est le téléfilm ardéchois Cœur fidèle au milieu des années 1970. La scène se passe dans les années 1820, c'est-à-dire à peine avant ou au moment où Agricole Perdriguier est en train d'amettre l'idée d'unir ces sociétés. Virginie Tostin, c'est aussi ça l'histoire des compagnons du devoir, des compagnons du Tour de France, c'est l'union de ces sociétés et puis peut-être unifier les rites, mais surtout avancer dans la même direction.
Alors, unifier les rites, c'est loin d'être le cas. Il y a eu une tentative d'unification, puisqu'il y a aujourd'hui un mouvement qui s'appelle l'Union compagnonique, qui est né à la fin du 19e siècle, et qui a réussi un peu ce pari, à un moment donné, pour certains métiers, de refonder un rite unique pour tous ces métiers. Mais beaucoup de compagnonnages ne sont pas rentrés dans ce système. Et aujourd'hui, on a encore trois mouvements et plus six affinités qui montrent bien que les compagnons n'ont jamais accédé à cette unification totale. Ce qui n'est pas un problème en soi. Alors, l'extrait d'Ardéchois Cœur fidèle qu'on a entendu là, elle est très intéressante parce que on parlait de Perdiguier juste avant. Perdiguier qui était compagnon menuisier du devoir de liberté, mais qu'il est devenu vraiment par hasard. Donc un rite différent de celui de ce qu'on appelle les devoirants. On entend le mot devoirant dans cet extrait. À partir du moment où Perdiguier commence à écrire, il écrit en 1839 le livre du compagnonnage, il explique justement ces différences de sociétés, ces sociétés qui, pour autant qu'elles pratiquent le même métier, sont des ennemis jurés parce que les rites ne sont pas les mêmes. Et qui se bataille pour avoir le monopole des embauches sur les villes. On connaît d'ailleurs un concours de chefs-d'œuvre entre ces deux sociétés à Montpellier début 19e. Et c'est lui qui a inspiré aussi indirectement Ardéchois Cœur fidèle, puisque parmi ces sociétés qui bataillent, là, on trouve souvent ces fameux menuisiers, dévorants d'un côté, gaveaux de l'autre. Et Perdiguier, qui a travaillé pour les deux camps, finalement, à un moment donné, même s'il a fini par être reçu chez les Gaveaux, il n'a jamais compris pourquoi on s'appelait dessus à ce point. Cette entreprise, on va dire, de pacification, il a été assez soutenu, notamment par Georges Sand, dans cette entreprise, hein, qui a écrit Le Compagnon du Tour de France. Elle-même, dans ce roman, parle de ces luttes, et le personnage principal est directement inspiré de Perdiguier, au même titre qu'on peut imaginer que le protagoniste principal d'Ardéchois est aussi un Perdiguier quelque part.
Avec, au moment de faire ses vœux Parcoursup au XIXe siècle, j'imagine des doutes de se dire, est-ce que je vais aller dans cette formation qui a l'air un peu dure? Et d'ailleurs, un auditeur nous écrit, et bien là, on est beaucoup plus proche de nous. J'ai connu un jeune compagnon du devoir très prometteur que l'on a envoyé en Grande-Bretagne et qui n'a pas voulu rester car il aimait une femme. Il a failli être exclu. Mais face à sa qualité, l'institution est revenue en arrière. Chez les compagnons, il ne faut pas aimer. Il ne fallait pas aimer. Cordialement. Nicolas Adel, c'est dur la vie de compagnon?
Oui, c'est dur la vie de compagnon. Et effectivement, ce témoignage est intéressant parce que il reprend une rhétorique chez les compagnons qui est très ancienne, qui consiste à dire que il faut choisir entre son travail, son devoir et le fait de s'installer, d'avoir une vie sentimentale. Et aujourd'hui encore, on a cette image et on a cette importance du choix qui s'offre à ceux qui sont sur le Tour de France, ceux et celles aujourd'hui qui sont sur le Tour de France, de se consacrer pendant ce temps au moins à une vie de travail et de devoir et de service envers la communauté aussi, plutôt qu'à sa vie personnelle et en particulier à sa vie sentimentale. C'est très dur, oui, effectivement.
Mais ça reste, Nicolas Adel, une formation d'excellence. C'est ça aussi qui nous intéresse dans le cours de l'histoire quand nous nous intéressons aux formations. Compagnons du devoir, là, c'est le top de la formation aussi.
Ah ben c'est une formation d'excellence dans le sens où effectivement, encore une fois, les journées sont tellement pleines en quelque sorte de travail. L'expérience du Tour de France confronte à une telle diversité en quelque sorte de situations techniques que de fait, au bout de plusieurs années, pour celles et ceux qui parviennent au bout du Tour de France, on devient effectivement des femmes et des hommes de métier d'un niveau très exceptionnel qui franchissent par ailleurs de façon très excellente et parfaite les différents diplômes. Jusqu'au brevet de maîtrise, hein, qui est la plus haute reconnaissance dans le monde de l'artisanat, et sont aussi très souvent candidats pour ceux qui et celles qui souhaitent se prouver davantage de choses, on va dire, et représenter leur société au concours des meilleurs ouvriers de France.
Virginie Tostin, cette fierté demeure avec la part de l'histoire si importante. Les compagnons du passé ne sont pas oubliés, on l'entend bien, et là où vous haussez les yeux, genre non, ça, ils ne les oublient pas, on le voit bien, mais la part de l'histoire dans le compagnonnage, c'est vraiment presque au cœur du fonctionnement, on l'entend.
Oui, là, d'ailleurs, dans les formations encore aujourd'hui, enfin dans les maisons de compagnons ou les sièges compagnoniques, peu importe le mouvement, on a de l'instruction compagnonique, c'est-à-dire qu'on peut pas y couper. Il faut à un moment donné comprendre, connaître les fameux pères légendaires. Perdiguier est une figure évidemment aussi qui est très très présente. Et même si les compagnons sont pas très attachés à tous les détails de leur histoire, mais beaucoup d'entre eux, par exemple, font de la recherche. Hein. On en parlait avec François hors antenne. Parmi les historiens du compagnonnage, ceux qui recherchent dans les archives, on a beaucoup de compagnons, en fait, et qui sont très attachés, effectivement, à leur histoire. Et pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Nicolas, enfin, on parlait de la formation. Et évidemment, on a parlé du Tour de France, on a parlé de l'instruction compagnonique le soir. Il y a effectivement aussi cette dimension d'avoir la capacité aujourd'hui, les formations compagnoniques, en tout cas les mouvements compagnoniques offrent cette possibilité de partir d'un CAP qui fait qu'on entre à un moment donné dans un CFA. Les compagnons ont leur propre CFA. Et donc très vite, ces jeunes qui entrent là sont imbibés, je dirais, de la culture compagnonique. Et on peut aller très très loin, effectivement, dans un parcours qui est ponctué par le Tour de France, par l'alternance, par cet apprentissage presque en continu.
Et puis l'apprentissage en continu, c'est aussi ce que vivent les historiennes et les historiens. François Rivière, il y a donc encore un champ pour la recherche gigantesque avec le compagnonnage.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de recherches à faire, notamment rétrospective en partant du XVIIe siècle, mais aussi sur ce qu'on peut trouver sur les compagnons au Moyen-Âge.
Merci vivement à tous les trois, hein, François Rivière, Virginie Tostin, Nicolas Adel, des hommes de devoir et des femmes aussi désormais. Je l'entends bien. Merci beaucoup. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, la formation en révolution, l'histoire de l'ingénieuse polytechnique.
La nouvelle école a été construite sur le plateau de Palaiseau. Les 700 polytechniciens pourront bénéficier de 7 amphithéâtres, dont 3 équipés en moyens audiovisuels, et de 44 salles de classe. Ils logeront dans des chambres individuelles avec téléphone, lavabo et une douche pour 2 personnes. Les installations sportives seront luxueuses. 2 piscines de 25 mètres, une salle d'escrime avec les derniers perfectionnements, une salle de judo, des cours de tennis et un stade d'athlétisme avec revêtement spécial pour haute performance.
Et là, nous étions en 1976. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique. Élise Le, merci à Ici Occitanie pour le duplex. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.